un autre regard.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
C'est dicton, rien sur nous sans nous, en gros. Quoi. Voilà, on veut participer aussi.
Un autre regard sur le handicap psychique.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur l'autre radio. Alors aujourd'hui, Arnaud, le collectif Santé Mentale 53 reçoit les collègues du 3114, le 3114 et de vigilance. Deux dispositifs nationaux de lutte contre les risques suicidaires, contre les passages à l'acte, voilà, la souffrance et le mal-être. Le 3114, c'est une plateforme nationale, confidentielle. Vous pouvez l'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est gratuit. Et il y a derrière cette plateforme des professionnels qui répondent. Voilà, et on les reçoit aujourd'hui. Le dispositif vigilance, on y reviendra plus tard, mais il y a Hélène qui est là aujourd'hui, qui va pouvoir nous en toucher deux mots. Voilà, Arnaud.
Bonjour à tous. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On accueille, oui, le 3114, un numéro qui doit rester dans les répertoires à transmettre à ceux qui en ont besoin. On va vous parler du public qui peut être concerné, mais aussi du travail que peuvent faire les collègues autour de ce numéro. Donc nous sommes avec Laure, Hélène et Camille qui vont se présenter respectivement et peut-être en dire un peu plus sur ce numéro. Est-ce qu'on pourrait commencer par Laure ?
Bonjour, alors je m'appelle Laure, je suis infirmière répondante au 3114. On est une équipe de 7 répondants, je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu du dispositif. Nos principales missions, c'est de l'écoute. Mm-hmm. Et on touche un public divers, un tout public, puisque ce numéro est accessible à toute personne qui peut être en souffrance, mm-hmm. Une personne qui pourrait être inquiète pour un proche. Également, les professionnels de santé du secteur sanitaire ou médico-social peuvent également nous appeler pour toute demande d'information. Notre principale mission, c'est de l'écoute.
D'accord. Donc, on visualise donc, que vous êtes basé, oui, juste pour préciser, vous êtes basé à Angers. Vous êtes tous et toutes des infirmiers et un psychiatre, je crois, qui est là, deux psychiatres. Et concrètement, tout citoyen peut appeler. Quoi. Voilà, c'est vraiment destiné à tout à chacun, enfant, adulte, adolescent, professionnel, n'importe qui peut appeler 24 heures sur 24.
C'est exactement ça.
D'accord. Concrètement, vous vous sentez submergé d'appels, comment vous sentez la chose, parce que ça fait un dispositif qui est assez neuf, qui est assez innovant. Vous êtes en place depuis?
Alors le dispositif a ouvert sur le plan national le 1er octobre 2021. C'était concomitant avec l'ouverture du centre d'Angers, mais là on est vraiment passé sur une amplitude horaire plus importante au 1er mai de l'année dernière.
D'accord.
Donc avec une file active qui augmente bien évidemment.
Ouais.
Et à la réponse des appels, alors c'est extrêmement variable, on va dire on a une petite moyenne d'une trentaine, 35 appels par jour.
D'accord.
Avec des pics horaires observés qui sont aussi corrélés aux données nationales, plutôt entre 13h et 20h le soir.
D'accord.
Donc effectivement, on sait qu'on peut avoir plusieurs appels les uns après les autres à gérer, mais on prend le temps. C'est important de se dire que même s'il y a beaucoup d'appels, on va prendre le temps de répondre à tous ces appels.
D'accord.
Et on va s'adapter vraiment à chaque appel et apporter une réponse adaptée.
D'accord. Alors nous, ce qui nous intéressait de vous faire, de mettre en lumière ce dispositif, c'est qu'en Mayenne, on a des chiffres alarmants. Donc, quand un Mayennais appelle, c'est à Angers que ça arrive. Donc voilà, on voulait aussi vous faire venir en Mayenne pour que vous puissiez nous parler un petit peu de ces chiffres un peu dramatiques. Hein, malgré tout, on peut le dire. En Mayenne. Camille, est-ce que vous auriez des chiffres à nous apporter et puis aussi, quelles raisons pour lesquelles ces chiffres sont si alarmants, voilà.
Donc, effectivement, bonjour et merci de nous recevoir. C'est sympa de pouvoir faire ça et de venir sur le terrain pour pouvoir parler de ça. Surtout qu'effectivement, c'est un numéro national, mais en fait, qui est réparti par équipe. C'est-à-dire que chaque département va avoir son équipe. Donc, nous, on est basé à Angers avec des infirmiers en psychiatrie, des infirmiers compétents, des infirmiers qui ont fait beaucoup de terrain. Ouais. Et donc, au téléphone, vous avez forcément quelqu'un qui connaît bien sa région et qui connaît bien les acteurs. Et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on travaille aussi avec le réseau local.
Oui, ça c'est important.
Et on s'appuie sur les structures, les gens qui travaillent au quotidien, au terrain, notamment en Mayenne. On a pu rencontrer la COP 53 et Pouvoir d'agir, qui vont rencontrer les populations dont nous, on n'a pas forcément accès. Donc ça peut être des relais dans un sens comme dans l'autre. Par rapport à, effectivement, aux chiffres, pour vous donner une base, donc moi je suis psychiatre, je suis médecin formé à la psychiatrie, on est deux médecins à s'occuper du 31-14 avec plutôt des missions de coordination, des missions de supervision, d'être en deuxième ligne par rapport aux répondants parce qu'ils savent très bien gérer la prévention du suicide, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. La moyenne nationale, en fait, on parle de chiffres pour 100 000 habitants, donc il y a 19,5 pour 100 000 habitants de suicide par an en France. On est déjà un département. Donc, nous, on s'occupe de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Pays de Loire, Vendée. Pays des Loires, pardon, Pays de Loire, c'est le département. Ouais. Et globalement, on a une moyenne qui est supérieure à la moyenne nationale.
Sur les Pays de la Loire, déjà, on a une moyenne supérieure.
On est pour une moyenne nationale autour de 15 par 100 000 habitants. On va être en Mayenne à 22 et en Sarthe à 30. Et donc, on sait que ces territoires sont particulièrement touchés. Et donc, on a axé notre réseautage parce que le 31-14, ça va être aussi notre grosse mission de faire du réseau, d'aller rencontrer les partenaires de terrain pour pouvoir que tout le monde, en fait, connaisse le 31-14. Parce que, comme disait Laure, l'infirmière répondante, en fait, tout le monde peut appeler. Oui. C'est-à-dire que si vous avez des inquiétudes pour un proche, si vous avez des questions pour quelqu'un, un collègue du boulot, si vous avez vécu un deuil, si vous vous sentez pas bien et que vous êtes perdu et que vous êtes tout seul, il faut pas hésiter à appeler. Laure parlait des missions d'écoute, ça va un peu au-delà. C'est de l'écoute, de la prise en charge du risque suicidaire, de l'aide à l'orientation, de l'aide à l'étayage dans l'environnement, de la sollicitation des structures.
Vous réorientez derrière, évidemment, vous laissez pas les gens seuls.
On stimule en fait le réseau justement pour pouvoir trouver une solution à un problème, et ce qui pourra être une solution pour une personne âgée de X qui vient de ce département là, la solution sera complètement différente pour une autre. Donc on a cette habitude de toute façon dans la culture de la psychiatrie, on adapte toujours notre prise en charge à la personne, puisque c'est une question de contexte, d'environnement. On souffre pas de la même chose, on souffre pas à la même intensité en fonction de ce qu'on a souffert, et ça fait pas mal partout au même endroit pour tous les gens. Donc
c'est de la dentelle. Prise en charge.
Tout à fait.
Ok. Donc, autre question, moi qui me taraude, Arnaud, enfin, je sais pas, on en parlait un petit peu, c'est aussi pourquoi la Mayenne, a des chiffres si hauts, et pourquoi la Sarthe aussi, évidemment. Est-ce que, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une réponse.
Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse simple et facile, parce que rien n'est simple et facile avec le risque suicidaire, puisque c'est multifactoriel de principe. C'est pas juste il y a un deuil, il va avoir des idées suicidaires, ou c'est vachement plus large que ça. Donc il faut aussi prendre en compte des choses dont on ne maîtrise pas, qu'on a du mal à analyser. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que les populations rurales ont moins tendance à avoir recours aux soins de manière générale. Et ça, on le voit aussi sur les urgences. C'est des gens, ils vont attendre le dernier moment pour aller consulter. Ils ont mal à la hanche depuis 6 mois et non, ils ne se plaignent pas. Donc c'est des durs au mal, surtout les Mayonnais, pour avoir travaillé aux urgences de Laval. Je les connais bien, puis je suis fille de Mayonnais. Donc c'est des gens durs au mal. Il y a aussi une éducation qui fait que se sentir pas bien, se sentir anxieux, c'est de la chochotte en fait. C'est se plaindre pour rien, c'est des choses qui se voient pas, donc un bon coup de pied et ça avance en fait. Ça marche pas comme ça. Quand on commence à ruminer, quand on commence à avoir de l'anxiété, c'est les signes, c'est votre corps, c'est sa façon de vous dire que non, il supporte plus son environnement, il y arrive plus, et le contraindre à marche forcée, à aller vers l'avant, ça ne pourra que mal se passer. Donc essayez de prendre les choses le plus tôt possible, essayez de ce qu'on fait en fait, faire de l'information et de dire non, c'est ok, on peut en parler, on a des solutions, vous n'allez pas rester coincé dans cet état-là toute votre vie, on sait le prendre en charge, c'est ok d'en parler, c'est ok d'avoir un endroit de parler de soi, c'est ok d'aller pas bien quand il arrive plein de choses qui vont pas bien dans votre vie, plein d'événements de vie négatifs, c'est ok, ça peut passer, on sait faire.
On a le droit d'aller mal.
Et ouais.
On a le droit d'aller mal.
Incroyable, hein ?
Oui, c'est pas des choses qu'on entend partout. Et puis, on a le droit aussi de s'écouter. C'est bien ça. Ça part de soi. Donc, il ne faut pas attendre d'être au fond pour appeler le 3114.
Tout à fait, l'idéal. Mais même si vous êtes au fond, vous pouvez nous appeler quand même.
Si je suis pas très bien, je vous appelle. J'attends pas.
Et ouais, ouais, ouais.
Mais si je suis aussi un ami ou que j'observe un collègue ou que je repère des choses dans mon environnement, je peux aussi passer par vous pour avoir 2-3 conseils.
Et ouais.
C'est pas mal.
C'est
ça,
un bel outil. Hein.
Ouais, bah on va garder ça déjà. Hein.
Ça sert à plein de choses. Mais vous avez quelqu'un de fiable qui connaît son boulot, qui connaît son réseau, qui connaît son territoire au bout du téléphone. Donc, allez chercher de l'info.
On parle d'Hélène, là, non? C'est Hélène qui connaît son territoire, qui connaît... Bonjour Hélène.
Bonjour. Je connais aussi, oui, le territoire. Moi, je suis infirmière dans une autre équipe que les collègues du 3114. Les missions que j'ai sont un peu similaires, dans le sens où c'est aussi un dispositif de prévention du suicide, où il s'agit d'écouter, d'orienter, d'évaluer et de raccrocher le patient à ses suivis pour lutter contre toute récidive suicidaire. Mais on a le droit aussi de nous appeler quand ça va bien. Moi, c'est plus... les patients que je vais avoir au téléphone, en fait, c'est moi qui les contacte.
Oui, c'est ça la différence.
C'est ça la différence. Ouais. C'est que, en fait, le patient qui va pas bien ne peut pas forcément m'appeler s'il n'est pas inclus dans le dispositif. Donc, c'est un peu une voie d'abord un peu différente. Ouais. Moi, je m'occupe de travailler avec les hôpitaux, les urgences, où on fait un gros travail de réseau pour que, en fait, les professionnels de santé, quand il y a un passage à l'acte suicidaire, inclut les patients dans notre dispositif avec accord du patient, il n'y a rien d'obligatoire. Mais l'idée, c'est qu'on ait un support supplémentaire, en fait, un maillon supplémentaire pour prévenir de toute récidive suicidaire ou toute rechute d'un épisode dépressif, en fait. Donc, moi, j'ai plus les appeler à des dates définies parce qu'on s'est rendu compte que... suite à une tentative de suicide, les 6 premiers mois qui suivent cette tentative-là sont très très importants et c'est là où il y a le plus de risques en fait de récidiver. D'accord. Donc on va rapprocher la surveillance, l'évaluation et notre présence à ces moments-là.
Rien qu'un contact, quoi. Hein.
Voilà.
Le contact.
Voilà.
Donc concrètement, comment ça se passe? Vous les rappelez à. Vous leur téléphonez, vous leur envoyez une carte, vous leur envoyez un mot, je ne sais pas. Vous allez chez eux? Enfin, concrètement, c'est quoi?
Alors concrètement, je les appelle. On ne se substitue pas au suivi.
Ouais.
On est vraiment un maillon supplémentaire pour les raccrocher au suivi et leur montrer notre présence.
Ouais.
Donc on les appelle, je ne vais pas détailler, mais à des dates en fait, définies sur les 6 premiers mois. Si on n'a pas moyen de les avoir au téléphone, on correspond par carte postale.
Alors,
j'en ai amené, je sais qu'on est à la radio, mais l'idée c'est de voir en fait... Voilà,
ah, elles sont jolies.
Comme des couleurs.
C'est des super belles cartes. Je ne les imaginais pas du tout comme ça. C'est super
c'est
que vous rameniez ça
carte.
Parce qu'en fait, je m'étais jamais mentalisée enfin, je savais derrière en posant la question qu'il y avait une carte, mais j'avais jamais vu les jolies cartes postales. Elles sont magnifiques, pleines de couleurs.
Voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose de positif, de montrer qu'on était présent. Et vu qu'il n'y a pas de limite d'âge dans les inclusions, on a autant des enfants que des adultes. On a plusieurs cartes à destination de différents âges.
D'accord.
Et du coup, notre mission, c'est vraiment de pouvoir leur montrer qu'on est là, qu'ils puissent nous rappeler par contre quand ils sont inclus sans souci. Et puis, on travaille en étroite collaboration avec le 3114 parce que nous, on ne fait pas du H24.
Okay.
Donc, on travaille ensemble pour réorienter les gens.
J'ai juste une petite question. Par exemple, une infirmière du CMP peut vous appeler en disant, bah voilà... alors, le CMP, c'est le centre médico-psychologique. C'est de l'ambulatoire en lien avec la prise en charge psychiatrique. C'est pas un hôpital psy, mais ça fait partie de l'hôpital psy. C'est pour les auditeurs, quand même, qui une infirmière qui a une file active ou un suivi avec des personnes qui ont des risques de passage à l'acte ou qui sortent d'un passage à l'acte, peut vous contacter, vous, concrètement?
Alors, concrètement, arrive. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on n'ait pas un suivi. Donc, c'est de pas rendre la personne dépendante à l'appel, parce que l'idée, c'est vraiment que moi, je le raccroche aux soins.
D'accord.
C'est important d'avoir un suivi des psychiatres, des infirmiers qui évaluent physiquement la personne, un réseau associatif. Il faut raccrocher la personne à un suivi réel. Moi, je suis là en appui. Alors, bien sûr, l'infirmière de CMP peut me dire que là, c'est compliqué, qu'elle ne peut pas recevoir le patient, qu'il ne va pas très bien. Et on fait des entretiens et on remet des entretiens pour avoir un étayage efficace. Mais c'est plutôt moi qui vais reconduire la personne qui va m'appeler 3-4 fois vers le CMP.
Parce que quand on parlait tout à l'heure avec Camille des raisons pour lesquelles la Mayenne et la Sarthe peut-être avaient des taux de suicide et de passage à l'acte plus importants, c'est aussi peut-être une des réponses, le non-recours en soins, le fait que le maillage... on sait que l'état de la psychiatrie, c'est très tendu. On a peu de psychiatres sur le département, peu de médecins généralistes, le recours aux soins devient compliqué, même avec l'envie d'accéder aux soins, on a déjà main de barrière, et c'est un frein supplémentaire à lever, Et donc, quand vous parlez du réseau associatif, moi, ça me fait... Ça fait du bien, parce que je pense que c'est aussi vers là qu'il faut qu'on aille pour des ressources internes aussi, autres que la psychiatrie, La psychiatrie ne peut pas tout porter, malheureusement, et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce réseau-là.
On voit bien dans votre documentation qu'évidemment, il y a le soin, mais il y a aussi l'environnement, les amis, le voisin, un proche. J'ai lu ça, et c'est vrai que c'est raccroché à la vie, peut-être. Comment ça se passe, les appels, Laure, exactement ?
Alors oui, effectivement, on se soucie aussi de l'environnement de la personne. On sait que c'est un facteur protecteur. Alors, on sait que les gens isolés sont un peu plus à risque, s'ils sont vulnérables. Et donc, on essaye d'orienter vers des proches, la famille, le voisin, comme on a pu le dire. De l'associatif, les groupements d'entraide mutuelle aussi. Mais il faut créer du lien. Nous, le 31-14 Vigilance permet de créer du lien, voire de garder du lien, mais il faut pouvoir aussi apporter à la personne du lien à l'extérieur. Donc on essaie d'orienter, de donner des conseils. Donc on parlait d'un public très large qui nous appelle. Je pense notamment à des jeunes qui parfois, selon l'âge, il peut y avoir du conflit familial. Donc on va essayer de les rattacher à quelqu'un de proche. Ça peut être un autre copain, copine, infirmière scolaire,
la maison des ados.
Voilà. On a des numéros de téléphone du fil santé jeune. On pourra peut-être en parler ultérieurement. Mais voilà. On essaye de mettre en lien ou de faire du lien avec beaucoup d'associatifs, des numéros ressources qu'on n'est pas tout seul. Bon, effectivement, on est spécialisé, on va dire, dans la prévention des suicides, mais il y a d'autres numéros ressources.
Oui.
Donc c'est important de faire diffuser cette information. Plus il y aura de ressources et plus on pourra être aidant avec les personnes.
Arnaud, peut-être...
Mais je vous écoute, c'est intéressant. J'imagine votre voix au téléphone. En fait, je me suis un peu projeté. Je me suis dit, est-ce que vous prenez les professionnels aussi par rapport à leur voix, leurs compétences? En tout cas, ça doit être agréable de vous entendre. J'ai l'impression qu'il y a un avant... un pendant et un après. Enfin, on voit bien qu'on peut appeler au début, on peut appeler quand on est au fond du trou, et puis après, en fait, il y a un lien qui reste. Ça reste intéressant. J'ai le témoignage, moi, de certaines personnes qui ont eu des passages à l'acte et qui ne sont pas bien avec ça. Mais après, ils en reparlent. Et c'est vrai que c'est pas évident d'en parler. J'ai l'impression que c'est très tabou. Je fais attention à ce que je dis, là, ce matin. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne peut pas...
dire.
C'est sensible. Camille, vas-y.
Le mot tabou, j'ai l'impression que pour nous, ça ne l'est pas, mais pour certaines personnes, ça reste tabou. Effectivement, il y a plein de familles où on sait qu'il s'est passé quelque chose dans la famille et on ne sait pas trop de quoi est décédée la grand-mère, comment ça s'est passé. Donc oui, pour certaines personnes, c'est tabou. Mais justement, l'idée, c'est qu'on peut en parler. On peut en parler avec positivité et avec de l'espoir, parce qu'il y a vraiment des choses à faire quand on ne va pas bien, et parfois des choses assez simples, des réponses assez rapides et des situations qu'on pense inextricables et qu'en fait... mais on trouve des solutions. Ouais. Donc, si c'est tabou, appelez-nous et on en parlera.
Si c'est tabou, appelez-nous. c'est tellement
beau.
Bien.
C'est beau.
Oui, c'est essentiellement le message ce matin. Donc, bon, on a choisi une petite chanson d'un artiste local, Stromae, qui ne va pas très bien en ce moment.
Non, donc, qui a annulé sa tournée.
On a aussi des pensées à lui et ses proches. Et on va écouter un de ses titres phares, qui traite un petit peu de notre sujet de ce matin. Merci.
L'enfer.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Waouh, sacré morceau. Ouais. Toujours pareil, on touche, je réutilise le mot tabou. c'est comme si il avait ouvert une porte, ce qu'on avait le droit d'en parler, d'avoir des idées noires, ça existe, d'avoir une réflexion sur sa vie, ça existe. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble. Donc, Camille, tu disais tout à l'heure que c'était bien de pouvoir libérer la parole. Je pense que les artistes ont ce rôle-là aussi.
Ouais. C'est important.
C'est intéressant de savoir que ça touche toute la population, qu'on n'est pas isolé. Enfin, il y a le mot honte qui remonte là. C'est comme si on n'avait pas le droit.
Et oui, mais ça, on l'entend tellement souvent.
J'ai honte.
Je suis faible. Moi, j'arrive pas à faire pareil que mon voisin. Lui, ça a l'air facile. Et puis, moi, je suis bouffée d'angoisse depuis des années. J'en ai jamais parlé. Et puis là, j'y arrive plus. J'y arrive plus à me lever. J'ai envie de rien. Donc, ouais, ça arrive. Mmh. Et on peut trouver des solutions. Ces moments de désespoir, on peut y remettre de l'espoir.
Alors, on souhaitait peut-être évoquer quelques ressources sur le territoire, parce que remettre de l'espoir, y a des possibles, en effet. Vous parliez du milieu associatif. Juste, on sait qu'il y a le collectif pour la prévention du mal-être et du suicide en Mayenne, donc la COPS 53, qui regroupe plusieurs assos, du territoire mayennais. Savé Racine, La Main Tendue, à Cossé-le-Vivien, Savé Racine plutôt sur Laval, c'est des collectifs qui se regroupent. Oui, Camille.
Et vous énumérez, c'est un bon exemple, par exemple, AgriEcoute, qu'on a rencontré il y a quelques semaines maintenant. Ils font quelque chose que nous, on ne pourra jamais faire, c'est-à-dire que c'est un ancien agriculteur qui va voir des agriculteurs et qui leur dit, je sais ce que vous vivez, je comprends ce que vous vivez, qui va chez eux, qui évalue l'environnement. Ouais. Et nous, en seconde ligne, effectivement, on peut proposer du soin, on peut proposer un étayage, ces professionnels-là sont indispensables pour nous. Ils maillent leur territoire, ils le connaissent par cœur, ils savent comment parler à ces populations-là. Donc, on est obligé et c'est indispensable qu'on puisse faire des allers-retours entre eux et nous.
Tout à fait.
On est sur la notion de père aidance, là.
Ouais.
On est d'accord.
Ouais.
Des personnes qui ont vécu quelque chose et qui transmettent leur expérience à quelqu'un qui est dans la situation.
Ouais.
Très intéressant.
Bah oui, il y a pouvoir d'agir. Hein,
l'association des dents.
Des dents, évidemment, qu'on avait aussi interviewé à l'autre radio également. Je pense aussi au réseau de la MSA, Mutuelle Sociale Agricole, qui pareil, forme des sentinelles à l'écoute, etc. La main tendue, des petites choses sympas. Hein, ils font du yoga du rire, des balades, des randonnées, tout en donc voilà, ça c'est des ressources concrètes, hein, c'est-à-dire on prend le temps, on rigole ensemble, on marche, on prend l'air, c'est des ressources, du prendre soin, quoi, du bien-être en tout cas.
C'est des pistes que vous évoquez, Laure, avec les personnes en direct, raccrocher à du concret. Nous on a même parlé de sensoriel à un moment donné, le sentir, manger, toucher.
Bien sûr, parce qu'on sait que, je ne vais pas rentrer dans les détails de la symptomatologie anxiodépressive, mais tous ces sens sont affectés, hein, effectivement. Donc on va raccrocher déjà des choses qui peuvent paraître simples, comme tu l'as dit, hein, ressentir les choses, toucher, manger, boire, dormir. Alors est-ce que ça a un lien direct avec le réseau associatif ? Après, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer de toucher la personne, d'atteindre la personne là où elle en a le plus besoin. Mmh. Hein, donc, pour faire un lien avec tout ce réseau associatif dont on parlait, ce sont des structures, des réseaux, assez faciles d'accès.
Oui.
Hein, et puis faut démystifier un petit peu tout ça. Il n'y a pas que le soin, quand je dis le soin, c'est pas que du soin médical. On est dans l'humain. Donc, je repars encore ce mot lien, je pense qu'il est important, c'est un petit peu, le lien, c'est l'essence, hein, la détresse psychologique, elle est difficile à vivre seule. Donc c'est soit les proches, soit l'associatif, soit les pères aidants, qui vont parfois même faire plus que le soin en lui-même, le soin psychiatrique, si je puis dire. C'est un ensemble. On a besoin les uns des autres pour aider au mieux la personne. Donc effectivement, en fonction de du profil d'appelant qu'on va avoir, on va orienter vers des numéros ressources, soit pour les jeunes, pour les personnes âgées. On tient compte de la localisation, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des territoires qui sont un petit peu isolés, un petit peu moins couverts, sur un plan médical, médico-social ou associatif. Donc on fait vraiment, on apporte une réponse adaptée et on essaie de trouver les ressources les plus faciles d'accès, les plus proches, et encore à adapter à chacun et chacune. Mais on se doit de le faire, c'est important.
Camille ?
Oui, je voudrais juste rajouter que effectivement, dans notre possibilité d'action, ça va de l'écoute, d'utiliser les ressources qu'on a en territoire, mais ça nous arrive aussi d'avoir quelqu'un qui a des idées suicidaires très importantes au téléphone. Et nous, on est basé au SAMU à Angers, et donc on a un lien très facile et très rapide. Donc ça nous arrive d'envoyer en fait des moyens médicaux quand les personnes sont au milieu de la forêt ou perdues ou complètement. Nous, on peut les géolocaliser, on peut avoir leur numéro, on les garde en ligne et on envoie les secours. Ça représente un appel sur 10 à peu près. Donc en fait, c'est assez
quand même. Bah ouais, moi j'aurais.
Ouais. Alors pour un numéro de prévention suicidaire, on aurait pu se dire c'est forcément non, c'est pas forcément SAMU direct, hôpital urgence. Il y a des situations où effectivement on va envoyer des moyens quand l'expertise de nos infirmiers répond que là il faut tout de suite y aller et aller voir. Mais la plupart des appels, effectivement, déjà c'est d'écouter de mailler, d'appeler. On a aussi beaucoup d'appels que nous, on passe, par exemple, quand on a quelqu'un qui nous appelle. Laure, tu pourras approuver ça, mais l'idée, c'est aussi, on appelle les parents, on va appeler l'école, on va appeler la MSA, on va appeler, voilà.
Et ça, concrètement, Laure, comment ça se passe? Vous êtes avec la personne au téléphone et vous dites, écoutez, là, donnez-moi le numéro de quelqu'un.
C'est exactement ça. L'idée, c'est déjà de pas rompre, j'insiste encore, ce lien avec la personne, mais on va solliciter les proches quand il y a besoin. Donc on est libre un petit peu de notre intervention, donc on peut décider de rappeler la personne, de prendre contact avec son médecin traitant, avec le psychiatre, avec le CMP, avec une et l'idée, c'est de faire une proposition de soins. On s'arrange, on trouve un terrain d'entente, un compromis avec la personne pour être le plus aidant. Alors ça peut être soit, comme tu disais Camille, dans l'immédiateté, lorsqu'il y a des critères d'urgence et qu'on ne peut différer, et là effectivement on va pouvoir intervenir sur un plan urgence, on va rappeler le SAMU, et des fois on va se raccrocher à quelque chose, on est sur un niveau d'intervention un petit peu moins important. Et ça va être le médecin traitant, parce que la personne a du mal à appeler. Et nous, on va faire ce lien.
Vous êtes connu par les médecins traitants, tout ça, ça commence à venir
Ça commence à venir. On a fait un bon travail de réseau grâce à notre chargé de mission, Sylvain. les médecins, on est connu des médecins. Ils orientent leurs patients vers le 3114. Ouais. Et je rajouterais, ça c'est la petite parenthèse et la particularité du centre d'Angers, c'est que nous sommes installés dans les locaux du SAMU. Donc avec des permanences médicales qui répondent au 116, 117 le week-end. Et ça permet de communiquer directement, de se faire encore mieux connaître. Donc ça fonctionne bien avec les médecins traitants, oui.
Okay. Hélène, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi.
Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Laure. Pour pas faire peur à tout le monde, on n'envoie pas le SAMU à chaque fois, bien évidemment. l'idée, c'est quand Laure parlait de compromis de soins, c'est aussi privilégier l'alliance thérapeutique. C'est de se dire que la personne qui est en face, elle va potentiellement pas bien, voire très très mal. Et l'idée, c'est de garder un lien. On se dit que si la personne a appelé, c'est qu'elle est en demande d'aide. Et l'idée, c'est pas de faire peur, c'est pas de freiner aux soins, c'est d'essayer un maximum d'être entre le soin efficace, répondre à ses besoins et gérer l'alliance thérapeutique et pas la froisser ou lui faire peur avec des soins vers lesquels elle n'irait pas forcément spontanément. Donc voilà, l'idée c'est aussi beaucoup d'écoute, parfois reprogrammer des appels, tenir un peu quelque chose comme ça dans le temps et puis au fur et à mesure des appels d'essayer de gagner en alliance thérapeutique et puis d'orienter tranquillement au mieux.
Très intéressant. J'imagine que ça soulage d'autres numéros d'astreinte, du coup, l'arrivée du 3114. Je pense aux urgences. Il doit y avoir beaucoup d'appels au niveau des urgences.
Le SAMU, surtout.
Le SAMU, surtout. Donc, pensez à appeler le 3114, parfois. Ça peut avoir du sens. Si on cherche du lien et de l'écoute, on appelle Laure.
Exactement. Il y aura Laure, il y aura Audrey, il y aura Mathieu, il y aura Bertrand, il y aura Anthony et il y aura Mélissa. Super. Et Suzy, pardon.
Et quelle est votre sensibilité pour aller vers ce type de métier? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de vous mettre derrière un casque et un micro?
C'est une bonne question.
Vous avez 20 minutes.
Très bien, je vais faire plus court. Donc j'ai déjà une expérience de soignante en milieu psychiatrique. Évidemment, faut aimer quand même le contact avec l'autre de façon générale. Donc c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. L'idée d'être là à un instant T pour aider une personne, parce qu'effectivement, le 3114, la particularité, c'est qu'on peut avoir un seul et unique appel avec quelqu'un dont on n'aura peut-être plus jamais de nouvelles, mais on agit à l'instant T. On apporte une réponse adaptée au moment où la personne nous appelle. Et c'est d'apporter vraiment quelque chose à la personne qui nous appelle, du soin, de l'écoute. Et aussi, ça nous renvoie aussi à beaucoup de choses. C'est quelque chose de gratifiant, parce qu'on est vraiment dans l'humain. Je suis ravie de faire ce que je fais. J'ai envie de faire encore pendant longtemps.
On le voit dans les regards de la passion. Ouais, Hélène, peut-être
Oui, moi j'ai une vision un petit peu différente de l'heure, c'est que du coup on suit potentiellement les personnes entre 6 mois et, oui, et plus. Oui. Donc c'est aussi le côté de aussi pénible et aussi dur que ça puisse être d'être dans une crise suicidaire, c'est aussi qu'on a des appels de gens qui vont mieux, ouais, qui nous remercient, ouais, et qui font un bilan positif de bah, voilà comment j'ai évolué, voilà comment ça va maintenant, voilà ce que je mets en place, et on se rappellera plus, et tant mieux. Et ça, c'est génial.
Et vous faites des retours, j'imagine, aux collègues du 3114 pour dire, bah, écoutez, ça va mieux. Enfin, c'est le, ce retour d'expérience-là, il est bon à prendre aussi pour les professionnels du 3114, j'imagine.
Oui, oui, c'est vrai, que c'est tout à fait ça. Au 3114, je le dis aussi. Il y a même des personnes aussi, des fois, nous rappellent pour dire que ça va mieux. Ouais. Et effectivement, on fait le lien avec vigilance si les personnes sont suivies par vigilance. Mais on prend aussi, hein, on prend tout ça. Hein, et on est content. Ça, c'est agréable aussi de dire que des personnes peuvent aller mieux. Alors, pas forcément que grâce au 3114, oui, mais si on a pu les aider un moment, ouais, et ben c'est plutôt chouette.
Non, bah c'est ça, c'est une super conclusion. Enfin, je trouve que voilà, ce que vous nous proposez là, c'est de faire le lien, l'espoir, des possibilités de rebondir et de lever ce tabou. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis d'accord. Vous vouliez nommer aussi un site très intéressant.
Oui, en site ressources, il y a le site Psycom. Qui est un guide de dispositifs nationaux avec différentes lignes d'écoute adaptées à plusieurs types de populations. Mmh. Donc, pour parler des agriculteurs tout à l'heure, ça peut être des jeunes, des personnes âgées, ouais, des policiers, des marins. C'est vraiment extrêmement spécifique. Donc Psycom, c'est un site qui est très bien fait et on retrouve les numéros dont on a, tout à fait, enfin, dont on a parlé tout à l'heure.
Donc pour résumer, le 3114, on a le droit d'appeler. Déjà.
Tout à fait.
Déjà. Quand on va pas très bien, mais aussi quand on va bien. Quand on commence à voir des choses et que ça commence à être compliqué pour soi. Quand on voit que notre environnement va mal ou qu'on a repéré des petites choses, on peut aussi vous appeler. Les familles sont les bienvenues, les amis sont les bienvenus, les partenaires sont les bienvenus. Vous allez être beaucoup appelés la semaine prochaine.
C'est possible.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
On attend que ça, en fait, d'être appelé, d'avoir le plus d'appels possible, parce que ça veut dire que c'est des gens qui viennent chercher de l'écoute, des réponses, ou en tout cas qui prennent en compte soit leur santé mentale, soit la santé mentale de leur entourage, et prendre conscience de ça, qu'on peut avancer sur le problème, c'est déjà super.
Juste sur le harcèlement scolaire aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est une cible aussi, hein, je pense, enfin voilà, une de vos missions aussi, c'est voilà, d'aller vers ces jeunes. On sait bien que la Covid, a fait beaucoup de mal, et il y a le harcèlement scolaire aussi, enfin voilà, on voulait en parler, c'est le 30-20, le numéro, un numéro assez court aussi, hein, voilà, de lutte contre le harcèlement scolaire, n'hésitez pas à appeler.
Laure, vous vouliez rajouter aussi une autre information?
Oui, alors on a aussi toujours dans le panel de ressources, on a des outils, entre autres avec des applications,
oui,
que certains appelants connaissent déjà. Il y a l'application Hop Ma Liste, qui est une application gratuite, assez simple.
HOP
Ma Liste, qui a été développée par le CHU d'Angers.
Bravo, le CHU d'Angers.
Et qui est est-ce que tu veux peut-être en parler plus en détail, Camille?
C'est un collègue, en fait, un jeune médecin qui a créé ça, ouais, qui s'appelle Édouard Gaudier, et qui a mis en place cette application. L'idée, c'est de pouvoir avoir un plan de réponse quand on a des idées suicidaires ou quand, ouais, on est dans de la souffrance, et de prévoir, en fait, ces moments-là.
Okay.
Parce que quand on va mal, on a tendance à se renfermer sur soi et à s'isoler et à avoir honte et à culpabiliser. Et là, du coup, c'est d'anticiper ces moments-là, ouais, de se préparer des choses qui nous font du bien, des musiques qui nous font du bien, des numéros qu'on peut appeler, des images qui nous font du bien. Et donc, ça permet de limiter le risque de repassage à l'acte suicidaire.
Un peu comme
derrière.
Le plan de crise en psychiatrie,
ouais,
voilà.
Tout à fait.
C'est des petits outils que chacun peut se créer finalement pour éviter les rechutes, voilà, ouais, c'est super. Et donc c'est un collègue d'Angers,
ouais,
là,
ouais.
C'est bien,
c'est... Et l'idée, c'est aussi qu'en passant par ça, par le smartphone et, ouais, les applis, bah, pour certaines populations, oui, ça va être vachement plus intéressant. Mmh. J'imagine que quand on a plus de 85 ans, ça va pas être votre choix préféré.
Pas de préjugés dans cette émission.
Alors, peut-être, mais en oui. multipliant les propositions, voilà. Eh ben, chacun va se saisir de ce qui lui plaît le mieux. Et j'adorerais que toutes les personnes de plus de 80 ans utilisent Opmalis, ce serait super. Mais s'ils veulent appeler, ils peuvent appeler aussi.
Je vous rappelle qu'on a tous une santé mentale.
Oui.
On est tous concernés oui. par ce genre de phénomène. Donc prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Ouais. Et il existe le 3114, au cas où.
Voilà.
Au revoir et merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir, merci.
Un autre regard.
Une émission proposée par le collectif Santé Mentale 53.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
Avec un autre regard.